Les mystères du Palais Royal, sixième partie. Chapitre 22. La Reine de Saba. Voyons maintenant ce qui se passait au Palais Royal au moment où une inflexible consigne empêchait Antonia Verdi de pénétrer jusqu'au régent. Tout était prêt pour la scène d'évocation, ou plutôt pour le tour de passe-passe fantasmagorique dont Philippe d'Orléans devait être dupe. Minuit allait sonner et le régent, prévenu par le chevalier et accompagné du marquis de Tiange, de madame de Parabère et de la belle Émilie, vint prendre place sur l'un des fauteuils placés en deçà de la barrière mobile dont nous avons déjà parlé. Une lueur faible, douteuse, étrange, et à laquelle on ne pouvait attribuer une origine vraisemblable, car aucun flambeau n'était allumé, rendait les ténèbres visibles dans le salon de la nuit. C'est à peine si cette lueur fantastique permettait de distinguer les contours des principaux personnages de la tapisserie magique. L'aspect de cette vaste pièce était lugubre, comme un intérieur d'église mal éclairé, et les deux femmes qui se trouvaient avec le régent se prirent à frissonner et n'apprécièrent que d'une façon extrêmement médiocre la faveur toute spéciale dont elles étaient l'objet. Elles ne dirent rien cependant, et elles s'assirent toutes tremblantes et mal rassurées par le voisinage de Philippe et du marquis de Tiange. Raoul tenait de la main droite la baguette traditionnelle, sans l'assistance de laquelle aucune sorcellerie un peu sérieuse ne saurait bien avoir lieu. « Monseigneur, dit-il au régent en s'approchant de lui, oserais-je adresser une prière à votre Altesse royale ?»« Oui, pardieu, mon cher chevalier, répondit Philippe d'Orléans. De quoi s'agit-il ? » ?»« De ceci. Je supplie votre Altesse de vouloir bien ne point oublier le dénouement sinistre de l'une des anecdotes que j'eus l'honneur de raconter devant elle l'autre nuit. L'évocation de Turenne à Saint-Denis, n'est-ce pas ? Oui, monseigneur. Et la catastrophe arrivée au capitaine du régiment de Champagne. C'est précisément cela, monseigneur. Ce qui veut dire que vous allez nous enfermer dans un cercle cabalistique ? Il le faut, monseigneur. Et que, sous peine de mort, nous n'en devons point sortir ? Raoul s'inclina d'une façon affirmative. Le régent reprit. Tracez votre cercle, mon cher chevalier, et comptez sur notre entière docilité et sur notre parfaite fermeté d'âme. Nous n'aurons d'ailleurs pas grand mérite à rester maître de nous, car l'apparition d'une jolie femme, fût-elle morte depuis 6000 ans, ne saurait être bien effrayante. D'ailleurs, cette jolie femme était reine, et je suis premier prince du sang. Donc, nous devons nous entendre, ajouta Philippe en souriant. Raoul, avec l'extrémité de sa baguette, traça un large cercle sur le tapis autour du régent et des trois personnes qui l'accompagnaient. Tout en faisant cette opération, il murmurait quelques mots sans suite, empruntés à la langue hébraïque. Ensuite, il gagna l'autre côté de la balustrade, et après s'être absorbé pendant 1 ou 2 minutes dans un recueillement très profond en apparence, il prononça à haute voix et à 2 reprises différentes une formule d'évocation en langage chaldéen. En ce moment, une musique douce et voilée, mystérieuse et lointaine, pareille au soupir de la brise dans les cordes d'une harpe, se fit entendre et sembla se rapprocher peu à peu. Le salon de la nuit resta sombre comme il l'avait été jusqu'alors, mais un rayon lumineux d'un prodigieux éclat sembla jaillir du visage et des vêtements de la reine de Saba, laissant dans l'ombre toutes les autres parties de la tapisserie. Seulement, la figure ainsi rayonnante restait une figure immobile, une figure de canevas et de laine. Raoul, pour la 3e fois, prononça la formule consacrée. Un bruit semblable à celui d'un coup de tam-tam lui répondit. Toute clarté s'éteignit, et pendant 1 seconde, d'épaisses ténèbres enveloppèrent les acteurs et les spectateurs de la scène que nous racontons. Alors s'éleva la voix de Raoul, criant avec l'intonation d'un commandement suprême. « Balkis ! Balkis ! Balkis ! Viens ! Je te l'ordonne au nom de Soliman ben Daoud, fils de David. » Il paraît que Balkis, fidèle à ses amours par-delà le tombeau, n'avait rien à refuser à la voix qui parlait au son de Soliman ben Daoud. Un point lumineux troua les ténèbres et s'agrandit insensiblement. Ce point lumineux prit la forme d'une femme, et bientôt la jeune reine de Saba elle-même, rayonnante comme l'était un instant auparavant la figure de la tapisserie, qui maintenant se perdait dans l'ombre, apparut, debout, vivante et avec un sourire aux lèvres, à quelques pas de la balustrade qui coupait en deux parties le salon de la nuit. Balkis croisait ses deux petites mains sur sa poitrine chastement voilée. L'escarboucle qui retenait l'aigrette de son turban étincelait. Les innombrables pierres précieuses qui diapraient son costume lançaient des feux de toutes couleurs. Ses cheveux blonds ruisselaient sur ses épaules, ainsi qu'un torrent d'or en fusion. Aucun doute n'était possible. À coup sûr, il n'y avait ni surprise, ni illusion. C'était bien réellement Balkis, reine des Amiarites, et bien réellement aussi Raoul de la Tremblée, était l'héritier des magiques secrets du roi Salomon. La musique mystérieuse continuait à se faire entendre, plus douce, plus voilée, plus indécise que jamais. Elle avait paru se rapprocher d'abord, maintenant elle semblait s'effacer dans le lointain. La reine de Saba demeurait immobile, et souriant toujours, son regard s'attachait sur celui du régent. Raoul s'attendait à ce que Philippe d'Orléans se servirait de lui comme d'un interprète pour parler à Balkis. Mais Philippe, entièrement absorbé par la contemplation de cette enchanteresse, restait muet et comme anéanti par l'admiration. Cependant, ses lèvres remuaient et tout bas à son insu murmurait « Ah, qu'elle est belle! Qu'elle est belle !» La vision dura 4 ou 5 minutes. Au bout de ce temps, la musique lointaine cessa de se faire entendre. La figure de Balkis pâlit, le feu de ses diamants mourut, ses vêtements se dérobèrent, une obscurité profonde envahit pour la deuxième fois le salon de la nuit. Cette obscurité ne dura d'ailleurs qu'une seconde et fut remplacée par ces clartés indécises qui semblaient n'avoir point de raison d'être. Balkis avait disparu. Du moins, la reine de Saba n'était plus une figure vivante et venait de reprendre sa place parmi les groupes de la tapisserie. « Tout est fini, » dit alors Raoul au régent, « et Votre Altesse Royale peut, si bon lui semble, franchir les limites du cercle magique tracé autour d'elle. » Chapitre 23 Explications et pressentiments. Il est vraiment par trop facile, et certains romans contemporains l'ont prouvé d'une façon surabondante, il est par trop facile, disons-nous, d'introduire dans un livre l'élément fantastique. Puis, après avoir raconté durant 50 pages ou durant 2 ou 3 volumes toutes sortes de faits miraculeux et de prodiges inouïs, de dire au lecteur stupéfait « Tout ce qui vient de vous étonner était la chose du monde la plus naturelle, et si je ne vous explique point ce que vous ne pouvez comprendre, c'est que je ne veux pas m'en donner la peine. Je sais bien que pour ma part, je n'ai jamais pardonné à Walter Scott, et cependant ce n'était pas un petit conteur, celui-là, de m'avoir impitoyablement mystifié dans son beau roman de Woodstock. En me faisant assister, dans le vieux château confié à la garde du loyal Sir Henry Lee, à des scènes de fantasmagorie organisées par les cavaliers pour épouvanter les têtes rondes du protecteur. Scènes dont, à l'heure qu'il est, j'attends encore l'explication. Je ne veux pas, moi, chétif, amasser sur mon humble tête de si longues rancunes littéraires, et je vais, en très peu de mots, raconter les faciles moyens employés par Raoul de la Tremblée pour produire une complète illusion. Moyens et mises en scène sont d'ailleurs, comme presque toutes les choses admirablement réussies, d'une simplicité primitive. Nous avons parlé des profondes embrasures devant lesquelles tombaient de très épais rideaux de tapisserie des gobelins. Jacques, caché dans une de ses embrasures, était muni d'une lampe assez semblable à une lanterne magique et armé d'un puissant réflecteur, pareil à ceux dont on se sert la nuit dans les galeries de tableaux. Cette lampe, ou plutôt cette lanterne sourde, pouvait, selon la volonté de celui qui s'en servait, projeter tous ses rayons sur un seul point qu'elle inondait d'une lumière éclatante, ou immédiatement après, faire disparaître jusqu'aux moindres lueurs. Ces clartés pouvaient se produire par gradation à peu près insensible. Ce que nous venons de dire doit être pour nos lecteurs la clé de l'énigme. Nous allons cependant compléter notre explication. Jacques, dans le premier moment, avait dirigé le foyer lumineux sur l'image de la reine de Saba, reproduite par la tapisserie, de façon à ce que cette image attira et concentra toute l'attention du régent. Un coup de tam-tam et un mouvement du réflecteur avaient créé de profondes ténèbres. Jeanne, revêtue du costume oriental de la reine de Saba, était venue prendre place au bord de l'estrade pendant ces quelques secondes d'obscurité complète. Puis, le réflecteur avait envoyé sur la jeune femme ses lueurs renaissantes, et ces lueurs, n'arrivant pas sur la tapisserie, n'avaient point permis au régent de s'apercevoir qu'il y avait en ce moment, en face de lui, deux reines de Saba. Quant à la musique mystérieuse, mais est-il donc bien nécessaire d'expliquer cette musique ? Oui, nous répond la voix d'un de ces ergoteurs intrépides qu'il est si difficile de satisfaire complètement. Eh bien, soyons consciencieux, et puisqu'il le faut, mettons tous les points sur tous les i. Nous avons dit que Raoul et le marquis de Tianges avaient placé la tapisserie de biais, de manière à laisser derrière elle une sorte de cabinet triangulaire dans lequel se trouvait une petite porte de sortie. Un ami de Raoul, mis dans la confidence de ce qui allait se passer, et armé d'un instrument de musique qu'on ne connaît plus aujourd'hui et qui alors s'appelait une viole d'amour, se tenait dans la pièce voisine. Selon les exigences de la situation, il se rapprochait ou s'éloignait du salon de la nuit en tirant de son instrument des sons faibles et mélancoliques. Aussitôt que la dernière partie des scènes d'évocation fut terminée, Jeanne se retira dans une des pièces de l'appartement, quitta son costume biblique, revêtit son déguisement de négrillon et, sous la conduite de Jacques, regagna le carrosse conduit par Breton, lequel attendait dans une cour du palais et ramena chez elle la jeune femme, brisée de fatigue et d'émotions contenues, tandis que le marquis et le chevalier restaient pour souper avec le régent. Raoul de la Tremblay, après avoir prononcé les paroles qui terminent le précédent chapitre, s'approcha de Philippe d'Orléans et se tint auprès de lui, dans une attitude respectueuse, semblant attendre des ordres, tandis qu'en réalité, c'était des félicitations qu'il espérait. « Chevalier, lui dit Philippe, vous êtes de ceux qui, dépositaires d'une science qui les rend puissants, ne font parade ni de cette science ni de cette puissance. Et ceux-là sont rares. Vous êtes de ceux qui, lorsqu'ils ont promis une chose, tiennent plus qu'ils n'avaient promis. Et ceux-là aussi sont rares. Votre mérite est grand. Votre récompense sera grande. Et cette récompense, c'est vous-même qui me direz ce que vous voulez qu'elle soit.
« Monseigneur, balbutia-t-il, je ne veux d'autre récompense que le bonheur d'avoir prouvé à votre Altesse royale que je n'étais pas tout à fait indigne de ce beau titre d'adepte et d'initié que je réclamais. J'oserais seulement supplier à genoux votre Altesse royale de vouloir bien ne point prêter une oreille facile aux accusations calomnieuses que mes ennemis, jaloux de me voir traité par votre Altesse avec une trop grande bienveillance, ne manqueront point sans doute d'articuler contre moi. Soyez tranquille, mon cher chevalier. Je n'abandonne point ceux auxquels j'ai donné mon affection et ma confiance. D'ailleurs, ce que j'ai vu ce soir est un magique bouclier contre lequel viendraient s'émousser les attaques de la calomnie.
Au moment où commençait l'entretien que nous venons de scénographier, le régent avait donné l'ordre qu'on apportât des lumières dans le salon de la nuit, qui se trouvait en ce moment brillamment éclairé. Philippe d'Orléans monta sur l'estrade et s'approcha de la tapisserie. « Qu'elle est belle !» murmura-t-il une dernière fois en regardant la reine de Saba. Puis il ajouta, mais plus haut, « Quand on pense que cette figure inanimée, cette figure dont le dessin et la couleur sont dus à des laines savamment nuancées et disposées habilement, dont avec un peu de patience on compterait tous les points, quand on pense, dis-je, que tout à l'heure cette figure avait pris le relief, la vie, le mouvement, le souffle, le regard, n'y a-t-il pas là de quoi effrayer la pensée, de quoi confondre la raison humaine ?»«
Oui, certes, monseigneur, répliqua Raoul. Et toutes les fois qu'il y a prodige, la raison humaine n'a plus qu'à s'incliner, sans chercher à comprendre ce qui est incompréhensible pour elle.
« Ce prodige, » demanda Philippe, « me le ferez-vous voir encore, chevalier ?»«
Aussi souvent que votre Altesse royale me fera l'honneur de me le demander, » répondit le jeune homme. Mais tout en faisant cette réponse, le chevalier de la Tremblée ne pouvait s'empêcher de souhaiter tout bas que Philippe le lui demandât rarement.
« Allons, mesdames, » dit alors le duc d'Orléans, en s'adressant à Madame de Parabère et à Émilie, qui se tenaient à quelque distance et causaient avec le marquis de Tiange.
« Assez de fantastique pour cette nuit, n'est-ce pas? Le souper nous attend. Allons souper !»
Puis se tournant vers la tapisserie, il ajouta
« Adieu, Balkis. Adieu, belle reine.
Ah, Salomon fut bien heureux !»
Le souper était commencé depuis quelques minutes et ne comptait que 5 convives, les 3 hommes et les 2 femmes qui venaient d'être l'un acteur, les autres spectateurs des scènes qui précèdent. Le régent avait Madame de Parabère à sa droite, Émilie à sa gauche, Raoul et le marquis en face de lui. Un valet de chambre s'approcha de son Altesse royale et lui présenta un papier sur un plateau d'argent. Le régent regarda le nom écrit à la main sur ce papier.
« Que veut dire cela ? » demanda-t-il après avoir lu.
Le valet de chambre lui donna quelques explications à voix basse.
« Ah, pardieu ! » s'écria Philippe quand il eut écouté et quand le valet eut quitté la pièce.
« Voilà qui est au moins bizarre !» Et comme, en disant ces paroles, il se tournait du côté de Raoul, ce dernier ne se permit point de lui adresser une question, mais il se posa en point d'interrogation.
« Chevalier, » reprit Philippe, « devinez un peu quel est le nom qui est écrit là-dessus. »
Et il désignait la feuille de papier qu'il roulait entre ses doigts.
« Comment devinerai-je, monseigneur ? » répondit Raoul en riant.
« Et à moins que le grand roi Soliman Ben Daoud, apprenant que ce soir vous receviez la visite de sa bien-aimée Balkis, n'ait voulu de son côté se faire inscrire au palais royal, je ne vois pas trop.
« Vous avez raison, vous ne devineriez jamais, » interrompit Philippe.
« Ce nom, c'est celui d'Antonia Verdi. »«
Antonia Verdi ?» répéta Raoul en tressaillant, comme s'il eût appris quelque chose de funeste.
« Cette jeune magicienne, de qui je ne veux point dire de mal, » continua le régent, « car bien qu'elle vous soit inférieure, et de beaucoup, elle a cependant son petit mérite. S'est présentée à minuit passé au palais royal. Il lui a été répondu qu'une consigne générale et sans exception interdisait même aux intimes l'entrée des petits appartements. Elle s'est alors réclamée d'un de mes valets de chambre, qui la connaît, et à qui elle a offert de donner 500 louis, s'il consentait à l'introduire dans le salon de la nuit où je me trouvais. Ce valet a refusé. Alors, Antonia Verdi a pris le parti de s'en aller, en disant que je me consolerais difficilement demain de n'avoir pas su quelques heures plus tôt ce qu'elle avait à m'apprendre. Ceci n'a point paru sérieux au valet de chambre qui l'a laissé partir.
Que dites-vous de cet incident, chevalier ?
Je dis, monseigneur, répliqua Raoul devenu très pâle, je dis qu'à moins que mes prévisions ne me trompent, ce qui m'étonnerait fort, il faut placer Antonia Verdi en première ligne parmi ses ennemis dont j'avais l'honneur de parler à votre Altesse royale, il n'y a qu'un instant.
« Et pourquoi donc vous haïrait-elle ? » demanda Philippe.
« Pourquoi ? » s'écria Raoul. « Parce qu'elle est, ou du moins parce qu'elle se croit ma rivale, et parce que son crédit naissant s'alarme de la faveur manifeste que votre Altesse veut bien m'accorder. Excepté dans ce qui touche aux choses d'amour, la jalousie conduit à la haine, et Antonia Verdi est jalouse.
« Il est possible que vous ne vous trompiez point, chevalier, » répondit le régent.
« Mais je vous répète d'être sans crainte, car je ferai taire les voix, quelles qu'elles soient, qui s'élèveraient contre vous. » « Puisse votre Altesse royale penser toujours ainsi, » balbutia Raoul.
« En doutez-vous donc ? Songez que ce serait suspecter ma parole et ma loyauté.
Que Dieu me garde de douter de la parole de mon prince, de suspecter la loyauté du premier gentilhomme du royaume.
Mais... » Raoul s'interrompit.
« Eh bien, chevalier, » dit le régent avec un peu de hauteur, « achevez !»«
Hélas, monseigneur, » murmura Monsieur de la Tremblée, « je sens que des inimitiés si puissantes et si habiles vont surgir contre moi de toutes parts, que je ne puis m'empêcher de trembler. Le mensonge, c'est prendre parfois le langage, l'accent,
l'apparence de la vérité. L'insidieuse calomnie se glisse partout comme un serpent. Elle ne se décourage jamais, et elle reprend le lendemain sa tâche interrompue la veille. J'ai peur qu'un jour, Monseigneur, malgré vous-même, le mensonge et la calomnie, 100 fois répétés, ne finissent par me noircir à vos yeux. Et si ce jour-là, il me faut perdre la bienveillance de votre Altesse, je n'aurai plus qu'à mourir.
Chevalier, répliqua Philippe en souriant, il me semble que vous possédez un excellent moyen pour vous tirer d'inquiétude.
Lequel, Monseigneur?
Ne devinez-vous point?
Non, Monseigneur, je l'avoue.
Interrogez Balkis. Elle ne vous trompera pas, elle. Vous en êtes sûr. Et vous verrez qu'elle vous répondra que quoi qu'on puisse me dire, et quand bien même le mensonge ressemblerait à la vérité, je ne douterai jamais de vous.
La parole de votre Altesse royale est plus sacrée pour moi que la parole de Balkis elle-même, répondit Raoul en s'inclinant. Je suis convaincu, et mon inquiétude disparaît.
Alors, voici que tout va bien. Maintenant, faisons en sorte que notre souper soit joyeux. Et pour commencer, buvons à toutes les jolies femmes des temps passés et du temps présent, en commençant par Balkis, reine de Saba, pour arriver à Parabère et à Émilie. Philippe, prêchant d'exemple, mit bientôt à l'unisson de sa gaieté, ou plutôt de sa folie, le marquis de Thianges et les deux femmes. Mais quoi que pût faire Raoul pour secouer la sombre préoccupation qui le dominait, il n'eut pendant tout le reste du souper qu'une fausse gaieté et qu'un sourire contraint. Il avait peur d'Antonia Verdi. Rentré chez lui vers les 5 heures du matin, Raoul trouva Jeanne, qui, au lieu d'être couchée et endormie comme il le pensait, l'attendait avec impatience et qui l'accabla de questions sur la manière dont elle avait joué son petit rôle, sur l'impression qui avait résulté pour le régent de toute cette fantasmagorie, et enfin sur les heureux résultats qu'il était en droit d'espérer. Raoul, mis au supplice par ses naïves interrogations, sut cependant prendre assez sur lui pour répondre et mentir près d'une heure avec l'apparence d'une satisfaction complète. Jeanne, trompée par la fausse quiétude de son mari, se mit au lit joyeuse et rassurée, et à peine sa jolie tête blonde avait-elle touché l'oreiller qu'elle s'endormait d'un sommeil calme et profond. Sommeil d'enfant qui sait que son bon ange veille sur lui. Raoul prit place à côté d'elle, mais dévoré d'inquiétude, tourmenté par les plus sinistres et les plus noirs pressentiments, il appela le sommeil pendant bien des heures avant que le sommeil consentît à venir à lui. Malgré lui-même, l'esprit frappé du chevalier revenait sans cesse à deux des incidents qui avait marqué dans la journée et la nuit qui venaient de s'écouler. D'abord, l'action étrange de Mathias Aubert, poussant l'impudence jusqu'à s'élancer sur le marchepied du carrosse pour jeter dans l'intérieur le regard hardi de son œil de lynx. Ensuite, la démarche d'Antonia Verdi, venant à minuit au Palais-Royal, offrant une somme énorme au valet qui consentirait à l'introduire à l'instant même auprès du régent, et ne se retirant qu'après avoir dit que Philippe d'Orléans se consolerait à grand-peine le lendemain de n'avoir pas su quelques heures plus tôt ce qu'elle avait à lui apprendre. Il semblait à Raoul que l'espionnage de Mathias Aubert et la nocturne visite d'Antonia devaient se rattacher l'un à l'autre par des liens étroits qu'il devinait mais qu'il ne comprenait pas. Surtout, l'incompréhensible phrase de la jeune femme revenait sans cesse lui marteler le cerveau. Et quoique son nom ne fût point prononcé dans cette phrase, elle lui sembla grosse de terribles menaces dirigées contre lui. Pourquoi cela? Il n'en savait rien, mais ses pressentiments le lui disaient, et nous savons déjà que Raoul croyait aux pressentiments. Enfin, il était déjà grand jour quand il parvint à fermer ses paupières fatiguées. Et peut-être aurait-il dormi jusqu'au soir si son sommeil n'avait été interrompu par un incident que nous allons raconter. Le chevalier de la Tremblay était seul dans le lit conjugal que Jeanne avait quitté sans bruit. On gratta doucement à la porte. Raoul n'entendit pas. La porte tourna doucement sur ses gonds et Jacques entra dans la chambre.
« Monsieur le chevalier !»
dit-il d'une voix très basse et très lente afin d'éviter à son maître un trop brusque réveil.
Le sommeil de Raoul était si lourd et si profond que ces quelques mots, prononcés de cette façon, ne purent l'interrompre. Jacques, alors, s'approcha du lit et toucha légèrement l'épaule du chevalier du bout de son doigt. Raoul tressaillit, ouvrit les yeux, se souleva sur son coude et regarda avec étonnement et presque avec terreur. Il ne vit que l'honnête figure de Jacques debout devant lui et semblant extrêmement malheureux de ce qu'il venait de faire. « Eh bien, quoi ? » lui demanda-t-il brusquement. « Que veux-tu ? Et pourquoi m'éveiller ainsi ?»«
Monsieur le chevalier, » répondit Jacques,
« il le fallait. »«
Et pourquoi le fallait-il ? » ?
Parce qu'il y a là quelqu'un qui demande à vous parler.
Tu aurais dû répondre que je dormais.
C'est ce que j'ai fait.
Eh bien, ce quelqu'un qui est un personnage de bonne mine, que je ne connais pas, a insisté en m'ordonnant de vous éveiller sur le champ.
Un ordre? Chez moi? À mon valet de chambre? Et pour une chose me concernant? Il fallait me mettre cet insolent drôle à la porte.
C'est ce que j'aurais fait de tout mon cœur, mais...
Mais quoi?
Au moment où j'allais me passer cette fantaisie, bien sûr que monsieur le chevalier ne m'en saurait pas mauvais gré, ce personnage, lisant sans doute dans mes yeux que j'étais plein de vilaines intentions à son endroit, m'a déclaré qu'il venait du Palais-Royal, et que s'il insistait de cette façon pour parler à monsieur le chevalier, c'est qu'il était porteur d'un message de son Altesse royale, message ne pouvant souffrir le moindre retard. Alors, j'ai cru devoir obéir.
Tu as bien fait, répondit Raoul en sautant en bas de son lit. Où est l'envoyé de son Altesse?
Dans la pièce qui précède celle-ci.
Et tu dis que c'est un homme de bonne mine?
Oui, monsieur le chevalier.
Vêtu de quelle façon?
Tout en noir.
Porte-t-il l'épée?
Oui, monsieur le chevalier.
Tout en questionnant ainsi, Raoul s'habillait rapidement. Quand sa toilette fut entièrement terminée, il donna l'ordre à Jacques d'introduire dans la chambre à coucher le visiteur inconnu. Jacques ouvrit la porte et dit « Entrez, monsieur. Monsieur le chevalier vous attend. » L'homme qui se présenta et dont, en effet, l'apparence était assez engageante, ressemblait à un officier en costume de ville. Son regard ne manquait point de franchise et un continuel sourire se jouait sur ses lèvres, découvrant ainsi des dents très blanches. Il s'inclina devant Raoul et il parut attendre les questions de celui chez qui il se présentait ainsi, à l'improviste. « Vous venez de la part de son Altesse royale, monsieur ?» demanda Raoul après avoir rendu le salut à son visiteur. « Oui, monsieur le chevalier, j'ai cet honneur, » répondit le nouveau venu. « Vous êtes chargé de quelque chose pour moi ?»«
Oui, monsieur le chevalier. »
« Un message verbal ou une lettre ?»«
Une lettre, monsieur le chevalier. »
« Vous plaît-il de me la remettre ?» Le visiteur fouilla dans la poche de côté de son habit, et il en tira deux objets. D'abord, un parchemin plié en quatre, auquel appendait le sceau de l'État. Ensuite, une enveloppe assez large, scellée d'un large cachet de cire rouge. Raoul jeta un regard plein de défiance et d'inquiétude sur le parchemin, qui lui paraissait avoir de tout point l'aspect sinistre d'une lettre de cachet. L'inconnu remit ce parchemin dans sa poche et tendant à Raoul l'enveloppe scellée de cire rouge, il lui dit « Voici la lettre, monsieur le chevalier. » Raoul saisit et déchira cette enveloppe avec un fiévreux empressement. Sur le papier qu'elle renfermait étaient tracées les lignes suivantes. « Ordre est donné au chevalier de la Tremblée de se rendre à l'instant même auprès de Monseigneur Philippe d'Orléans, régent de France, à quelque heure du jour ou de la nuit, que le présent écrit lui parvienne.
Savez-vous ce que renferme ce billet ? Demanda Raoul après avoir lu.
Oui, répondit le messager, je le sais.
Ainsi, son Altesse m'attend.
Oui, monsieur le chevalier. Sans doute, il s'agit de quelque communication de haute importance.
Cela est en effet fort probable.
Ignorez-vous ce que peut être cette communication ?
Complètement.
Enfin, quoi qu'il en soit, l'essentiel est de ne point faire attendre son Altesse. Prenez les devants, monsieur, je vous prie, et prévenez monseigneur que je vais avoir l'honneur de me rendre à ses ordres à l'instant même. » L'inconnu secoua la tête. « Ce que monsieur le chevalier me demande là, dit-il ensuite, est impossible. »
« Vous ne pouvez me précéder ?»«
Non. »«
Pourquoi ? parce que j'ai l'ordre de vous tenir bonne et fidèle compagnie, à partir du moment où j'aurai remis entre vos mains le billet que voilà, jusqu'à celui où vous vous trouverez en présence du régent.
« Ah ! » dit Raoul, « vous avez cet ordre ?»«
Oui, monsieur le chevalier. »«
Alors, je vais donner l'ordre qu'on attelle mon carrosse sans perdre une minute. »
Et Raoul avançait le bras vers le cordon d'une sonnette. L'inconnu arrêta ce mouvement.
« C'est inutile, monsieur le chevalier, » fit-il ensuite.
« Cependant, j'imagine que nous n'irons point à pied. »
« Non, certes, mais un des carrosses du palais royal nous attend à la porte. »«
Ah ? » fit Raoul pour la seconde fois. Il prit son chapeau, boucla son épée, mit ses gants et dit « Je suis prêt. »«
Alors, monsieur le chevalier, nous partirons quand vous le trouverez bon. »«
Passez, monsieur, je vous suis. »«
Non, monsieur le chevalier, je n'en ferai rien. »«
Passez le premier, je vous le demande en grâce. »
Raoul haussa les épaules et passa.
Dans la cour, il vit deux ou trois hommes, vêtus de noir comme son visiteur inconnu, mais porteurs de très mauvaises figures, qui se promenaient les mains dans les poches en regardant les croisées. Deux grands diables de valets de pied, ressemblant à s'y méprendre à des alguazils déguisés en laquais, se tenaient debout à la portière du carrosse. L'un d'eux ouvrit cette portière.
« Montez, monsieur le chevalier, » dit l'inconnu.
Raoul obéit. Son compagnon s'installa non point à côté de lui, mais en face, après avoir donné l'ordre de toucher au palais royal. Les deux grands valets de pied s'élancèrent à leur poste et le carrosse s'ébranla.
Chapitre 24. Un étrange interrogatoire.
Voulez-vous me permettre, monsieur, de vous adresser une question ? Demanda Raoul à son compagnon au moment où le cocher mettait ses chevaux au grand trot. « Et me promettez-vous de me répondre la vérité ?»«
Je suis à vos ordres, monsieur le chevalier. Questionnez-moi tout autant que vous le jugerez convenable. Je prends l'engagement de vous répondre avec la sincérité la plus parfaite. »«
Eh bien, vous êtes un exemple, n'est-ce pas ?»«
Et je suis votre prisonnier. »
L'inconnu hocha la tête. « L'interrogatoire est complexe, » dit-il ensuite, « et la réponse embarrassante, du moins en ce qui concerne la seconde de vos deux demandes. Je vais cependant faire en sorte de vous satisfaire de mon mieux. D'abord, il est très vrai que je suis un exemple, ce que votre perspicacité vous a fait merveilleusement deviner. Ensuite, vous n'êtes pas précisément mon prisonnier, et vous n'êtes pas non plus précisément libre. Je ne vous ai point arrêté. Je ne suis point votre gardien. Je suis votre compagnon, mais un compagnon gênant et dont il vous serait difficile de vous débarrasser quant à présent. J'espère d'ailleurs qu'immédiatement après votre entrevue avec Monseigneur le Régent, vous serez libre et délivré de ma compagnie.
Mais, demanda Raoul, si tout à l'heure j'avais refusé de vous suivre.
Ceci n'était point à craindre avec un gentilhomme ayant autant de savoir-vivre que Monsieur le Chevalier.
« Sans doute. Mais enfin, admettons cette résistance improbable.
Admettons-la, puisque vous le voulez.
Eh bien ?
Eh bien, monsieur le chevalier, le cas était prévu.
Que serait-il advenu de ma résistance ?
Des extrémités fâcheuses, et qu'on aurait su déplorer d'une façon trop vive. Je me serais vu dans la déplorable nécessité d'appeler à moi main forte, de procéder à l'arrestation de monsieur le chevalier, et pour cela, de faire usage d'une lettre de cachet que j'ai dans ma poche. J'ajouterai que je suis bien heureux que les choses aient tourné tout différemment.
Monsieur, dit Raoul à cet exemple si rempli de politesse et de bienveillance, savez-vous que cette nuit j'ai soupé au palais royal avec le régent ?
Oui, monsieur le chevalier, je le sais.
Savez-vous que son Altesse royale me traitait avec une bienveillance hors ligne et plutôt en ami qu'en serviteur ?
Je sais aussi cela, monsieur le chevalier.
Comment ai-je pu, en si peu d'heures, démériter au point d'attirer sur ma tête une disgrâce aussi foudroyante et de voir l'ami de la nuit dernière devenir le prisonnier d'aujourd'hui ?
Je ne puis répondre à cette question, monsieur le chevalier.
Et pourquoi ?
Parce que j'ignore complètement ce que vous me faites l'honneur de me demander.
Bien vrai ?
Je vous en donne ma parole.
Raoul n'insista pas. et comme la série des interrogations qu'il pouvait adresser à l'exemple était épuisée, il garda le silence et s'enfonça dans des réflexions très noires, très peu rassurantes, que nos lecteurs devinent à merveille, et dans le détail desquelles il nous semble, par cette raison, tout à fait superflu d'entrer. Le carrosse s'arrêta. « Nous sommes arrivés, monsieur le chevalier, » dit l'exemple. « Vous plaît-il de descendre ?» Raoul descendit et, tout en gravissant le large escalier du palais royal, toujours suivi par son inévitable compagnon, il se disait « Ainsi donc, voilà réaliser mes sinistres pressentiments. D'où peut venir le coup qui me frappe? Et qui donc a tourné la foudre contre moi? Ce doit être cette Italienne, cette Antonia Verdi, ma rivale, mon ennemie mystérieuse. Mais jusqu'où va le mal? Qu'a-t-elle appris? Qu'a-t-elle révélé? Si le régent n'a que des soupçons, je puis m'en tirer encore à force d'audace. Mais s'il sait tout, je suis perdu. Les portes de la Bastille se fermeront sur moi et ne se rouvriront plus. » Raoul en était là de son monologue quand il arriva, en compagnie de l'exemple, dans l'antichambre qui précédait le cabinet de travail de Philippe d'Orléans. L'exemple adressa quelques mots tout bas à l'huissier de service qui pénétra dans le cabinet et en ressortit presque aussitôt en disant « Son Altesse royale attend Monsieur de la Tremblay. » Le moment décisif était arrivé. Raoul imposa silence au battement de son cœur. Il franchit le seuil redoutable, la porte se ferma derrière lui et il se trouva face à face avec le régent. Ce dernier était debout, le dos tourné à la cheminée sur laquelle il appuyait son coude. Nous savons que cette attitude lui était familière. À la droite du duc d'Orléans était un paravent chinois déployé. Le froufrou d'une robe de soie qui se fit entendre derrière les feuilles laquées, rehaussées d'or de ce paravent, apprit à Raoul que Philippe n'était pas seul. Une femme allait assister à l'entrevue du prince et de Raoul. Mais quelle pouvait être cette femme? Était-elle une alliée? Était-elle une ennemie? Raoul n'eut pas le temps de se poser ces questions, ou du moins de chercher à les résoudre, car à peine avait-il fait deux ou trois pas dans le cabinet que le régent lui dit d'une voix dans laquelle le jeune homme crut découvrir une poignante ironie « Ah ah, chevalier de la Tremblay, mon féal serviteur, vous voilà donc !»«
Monseigneur, » répondit Raoul avec fermeté, « me voici comme toujours aux ordres de votre Altesse royale, de quelque façon que ces ordres me soient transmis. Devinez-vous quels sont les motifs qui m'ont fait vous mander auprès de moi ?»«
Je devine du moins que les tristes prévisions émises par moi cette nuit en présence de votre Altesse royale se sont réalisées plus vite encore que je n'avais lieu de le craindre. »
« Que voulez-vous dire ? » ?»«
Je veux dire que mes ennemis ont parlé et que votre Altesse royale ne s'est pas souvenue de ses promesses. »
« Je n'oublie jamais, monsieur, » répondit Philippe avec hauteur.
« Cependant, » dit hardiment Raoul, « votre Altesse royale avait daigné me promettre de ne point prêter l'oreille à des calomnies audacieuses et de ne point confondre le mensonge avec la vérité, si plausible que fût ce mensonge. »
« Et comment donc savez-vous, monsieur, que des accusations se sont élevées contre vous ?»«
Comment ne le saurais-je pas, monseigneur ? Puisque je suis prisonnier, c'est que je suis accusé. » »«
Eh bien, monsieur, la meilleure preuve que je me souviens de ce que j'ai promis, c'est que j'ai voulu vous entendre avant de vous condamner. C'est que j'ai voulu vous laisser le pouvoir de me convaincre qu'on a menti et que vous avez été bien réellement calomnié. »
Raoul ne répondit pas et il attendit. Son attitude morale, en ce moment, pouvait se comparer à l'attitude physique d'un adroit duelliste sur le terrain. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'issue du combat pouvait dépendre de la façon dont le premier coup serait porté et paré. Il se tenait sur ses gardes, prêt à parer ce premier coup, si toutefois la parade était possible.
« Monsieur de la Tremblay, » lui dit le régent, après avoir semblé, pendant quelques secondes, chercher, sinon ce qu'il avait à dire, du moins les expressions dont il voulait faire usage. Que penseriez-vous d'un gentilhomme, admis dans l'intimité de son prince et possédant toute sa confiance, qui se servirait de cette confiance et de cette intimité pour tromper le prince de la façon la plus indigne, pour l'abuser par de honteuses jongleries et lui faire jouer un rôle de dupe ?
Raoul sentit un frémissement passer dans tout son corps, depuis la plante de ses pieds jusqu'à la racine de ses cheveux.
Cependant, il fit appel à sa résolution pour supporter sans défaillir ce choc si rude. Aucune émotion ne se laissa lire sur son visage, et il répondit.
Le gentilhomme, qui se serait conduit ainsi que vient de le dire votre Altesse royale, aurait commis un crime indigne de pardon. Et quel que fût le châtiment que le prince trompé par lui jugea convenable de lui infliger, nul ne pourrait prétendre que ce châtiment fût trop rigoureux.
Le régent regarda Raoul avec un étonnement qu'il ne parvint point à cacher. Raoul soutint ce regard sans baisser les yeux. Il y eut un moment de silence.
« Ainsi, monsieur de la Tremblée, dit Philippe au bout de ce temps, ainsi, tel est votre avis. »«
Oui, monseigneur. »
Le gentilhomme dont nous parlons, s'il existe, vous paraît avoir commis un crime indigne de pardon.
Oui, monseigneur.
Et vous prétendez qu'aucun châtiment, quel qu'il soit, ne serait trop rigoureux pour lui.
Je prétends cela, monseigneur.
N'êtes-vous pas sévère, monsieur de la Tremblée?
Non, monseigneur, je ne suis que juste.
De telle sorte que si je faisais paraître devant vous le gentilhomme accusé et convaincu de m'avoir misérablement trompé, vous répéteriez en sa présence ce que vous venez de me dire?
Je n'hésiterai pas, monseigneur.
En êtes-vous bien sûr?
Autant que je le suis de m'appeler Raoul de la Tremblée et d'être un fidèle serviteur de votre Altesse royale.
Et si, par exemple, sa condamnation à une prison perpétuelle dépendait de vous, vous le feriez condamner?
Oui, monseigneur.
Sans pitié?
Il n'en mériterait pas.
Sans remords.
Pourquoi des remords, monseigneur, quand on prononce un juste arrêt?
Il y eut un nouveau silence, plus long que le premier. Philippe d'Orléans ne regardait plus Raoul. Ses yeux baissés semblaient étudier une des fleurs du splendide tapis de la savonnerie qui couvrait le parquet.